France Culture, il est midi et demi, je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour la deuxième partie de la Grande Table avec notre invité, le professeur au Collège de France et neurobiologiste Alain Prochian. Mais pour l'heure, c'est Thomas Cluzel qui est entré dans ce studio, l'heure du journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Il s'agit d'un bouleversement sans précédent, autant que d'une sévère déconvenue pour Benjamin Netanyahou, lequel ambitionnait d'accomplir un cinquième mandat à la tête du gouvernement israélien. Cette nuit, les députés ont décidé de dissoudre le Parlement. Ce qui signifie que les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes, ce sera le 17 septembre prochain.
La ville sainte de la Mecque se prépare à accueillir aujourd'hui des dirigeants arabes et musulmans pour 3 sommets.
L'Arabie saoudite qui cherche ainsi à serrer les rangs face à son grand rival, l'Iran.
Une nouvelle pierre à l'édifice contre les aliments ultra transformés, Thomas.
2 études européennes publiées aujourd'hui suggèrent que l'abus de plats industriels ultra transformés augmenterait le risque cardiovasculaire et de décès. Enfin, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Benjamin Morel, doctorant en sciences politiques, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
On va revenir sur la relation homme-animal et notamment sur la question des espèces. Pourquoi l'homme n'est-il pas un animal comme les autres? Notre invité vient de signer un nouvel essai, Singe toi-même, chez Odile Jacob. C'est le neurobiologiste Alain Prochian, professeur et administrateur du Collège de France. Il sera donc avec nous dans une vingtaine de minutes pour parler évolution et pour parler langage aussi et taille de nos cerveaux.
Merci et à tout à l'heure. À l'issue d'un psychodrame qui se sera prolongé jusqu'après minuit dans une tension grandissante, le Parlement israélien a donc voté la nuit dernière pour sa propre dissolution, moins de 2 mois après avoir été élu. Un scénario inédit dans l'histoire du pays, même dans le paysage politique au rythme haletant d'Israël, et qui résulte de l'incapacité du Premier ministre sortant à former une coalition de gouvernement avec les partis de droite arrivés en tête des législatives du 9 avril dernier. Sauf qu'avant d'en arriver à un tel développement sans précédent, Benjamin Netanyahou aurait pu se désister. Ou dit autrement, le maître stratège a préféré provoquer de nouvelles élections plutôt que de voir le président israélien donner à un autre que lui sa chance de rassembler une majorité de gouvernement avec la Knesset existante. Et c'est d'ailleurs bien là ce que lui reprochent aujourd'hui ses adversaires. Selon eux, Benjamin Netanyahou chercherait par tous les moyens à s'accrocher à son poste pour pouvoir faire voter des lois assurant sa survie politique, comprenez, le protégeant de poursuites judiciaires. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors avant de comprendre, Étienne, ce qui a conduit à une telle situation, vous avez cherché à savoir comment la nouvelle avait été reçue auprès de l'électorat du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, avec notamment cette question, ces électeurs sont-ils prêts à tout pardonner à Bibi? On écoute votre reportage.
Le marché de Mahane Yehuda à Jérusalem est un haut lieu du commerce avec ses légumes et ses fruits secs, mais c'est aussi un bastion pour les électeurs du Likoud. Ce matin, il y a un petit effet de choc, mais pour Shem Tov Shitrit, personne ne pourra remplacer Benjamin Netanyahou.
Bien sûr, le Likoud il va monter jusqu'à 50 points, au moins.
Donc vous croyez toujours en Netanyahou, il est toujours là?
Toujours, c'est le seul. Montre-moi un autre qui est là-bas. Il n'y a pas aucune personne là-bas. Seulement Netanyahou.
Dans les allées du marché, on sent aussi les effets de l'usure du pouvoir. Pendant longtemps, le Premier ministre a soudé autour de lui contre les autres. La stratégie de la victime ne fonctionne plus, estime Maurice Bitton, passé hier soir dans le camp des déçus.
Moi, j'ai toujours voté Netanyahou, vraiment, parce qu'on sait qu'il est parmi les meilleurs. Mais quand quelqu'un est élu, il oublie tous les autres. Il s'en fiche de tout le monde. Il n'y a que lui qui l'intéresse. Et maintenant, je ne sais plus pourquoi ou qui voter.
La nouvelle élection sera donc un vrai test sur la capacité du Premier ministre à renouveler ses ressorts de mobilisation ou sur l'abnégation d'un électorat qui lui passe tout au nom du talent politique.
Alors, bien que menacé aujourd'hui d'inculpation pour corruption, Benjamin Netanyahou devrait donc à nouveau se trouver au cœur de la prochaine campagne électorale, preuve qu'il reste une figure dominante de la vie politique israélienne au pouvoir sans discontinuer, rappelons-le, depuis 2009, au point d'en paraître quasi imbattable. Et c'est d'ailleurs le sentiment qu'il donnait encore il y a moins de 2 mois à l'issue des législatives. On l'écoute.
Je suis très ému que le peuple d'Israël m'ait de nouveau donné sa confiance. Pour la 5e fois, et de façon plus large, je compte rapidement terminer les négociations pour former un gouvernement de droite stable. Ce sera un gouvernement de droite, mais j'ai l'intention d'être le Premier ministre de tous les citoyens d'Israël.
Alors du triomphe, on est donc passé à la défaite, et tout cela en quelques semaines seulement. Comment en est-on arrivé là, Étienne ?
Eh bien, pour apporter les premiers éléments de réponse, il faut tourner autour de deux personnalités complexes. Il y a deux acteurs principaux dans ce drame, l'un déboulonnable et transgressif Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'un déchiffrable, l'imprévisible Avigdor Lieberman. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont fait un long chemin politique ensemble. Lieberman en aurait gardé une très forte frustration, débordée par l'interventionnisme du Premier ministre quand il était à la Défense, forcé de conduire une politique du statu quo qu'il désapprouve sur le plan sécuritaire. Avigdor Lieberman a sans doute senti les contradictions et les fragilités montantes de son allié ou son adversaire. Benjamin Netanyahou a cherché à nouveau un attelage avec les ultra-orthodoxes, comme ils étaient un allié naturel de la droite, alors qu'ils sont devenus depuis 2015 des invités choyés d'une politique d'intérêt particulière construite pour cimenter une majorité. Lieberman a sans doute compris que la droite se porte mieux sans les exigences d'un autre temps des religieux. Il s'appuie sur ce combat de la laïcité pour se construire une nouvelle stature politique menacée de disparition politique sur son traditionnel créneau russophone lors des dernières élections. Il a aussi saisi que les poursuites judiciaires avaient coupé le Premier ministre des autres partenaires potentiels, qu'il avait resserré ses appuis sur ceux qui étaient prêts à le soutenir contre la justice, devenu prisonnier d'une majorité consacrée cette fois à sa survie politique, d'où le jeu d'enchères et de surenchères poussé jusqu'à l'extrême, et finalement cette première mutinerie contre l'ancien maître de l'échiquier.
Merci Étienne Monin en direct de Jérusalem. Et puis l'annonce de ces nouvelles élections israéliennes a des répercussions aussi bien au-delà des frontières de l'État hébreu en particulier. Elle soulève la question de la présentation par les États-Unis de leur plan, toujours secret, visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. En tournée régionale, le conseiller et gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, est arrivé hier soir à Jérusalem pour discuter justement de l'initiative diplomatique dont il est le cerveau. Or, après une première présentation retardée en raison des élections législatives du 9 avril dernier, eh bien, il y a fort à parier que les nouveaux développements intérieurs soient de nature à remettre à nouveau en question sa publication. C'était sa toute première déclaration publique depuis la remise il y a deux mois de son rapport d'enquête concluant à l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 dans le but de nuire à la candidate Hillary Clinton et de favoriser l'élection de Donald Trump hier, avant de quitter définitivement son poste de procureur indépendant rattaché au département de la justice. Robert Mueller a donc tenu à préciser les choses pour la première mais aussi la dernière fois. Si son rapport ne conclut pas que le chef de la Maison-Blanche a commis un délit, il ne le disculpe pas non plus. Si nous avions eu la conviction que le président n'avait clairement pas commis de délit, nous l'aurions dit, a-t-il assuré. Robert Mueller a par ailleurs tenu à rappeler qu'inculper un président en fonction est anticonstitutionnel. En revanche, et sans directement citer l'impeachment, il a précisé que d'autres moyens permettaient de déterminer si le président a mal agi, une manière en somme de renvoyer la balle, voire de mettre la pression même sur les responsables démocrates qui eux rechignent jusqu'à présent à se lancer dans une procédure de destitution à la fois impopulaire et vouée surtout à l'échec faute d'une majorité au Sénat. Toujours aux États-Unis, après une dizaine d'autres États avant eux, les députés de Louisiane ont à leur tour adopté hier une loi restreignant l'avortement. La nouvelle législation interdit aux femmes d'avorter dès que les battements de cœur du fœtus peuvent être détectés, généralement à partir de 6 semaines de grossesse. Elle comporte toutefois des exceptions, notamment dans le cas où la vie de la mère est en danger. Le gouverneur démocrate de Louisiane s'est aussitôt dit prêt à signer cette loi, approuvée par une majorité écrasante d'élus des deux bords d'ailleurs de l'échiquier politique. En revanche, et comme toutes les autres lois similaires votées dans d'autres États ces dernières semaines, elle devrait être rapidement bloquée par les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'elle entre en contradiction flagrante avec un arrêt datant de 1973 qui garantit le droit des Américaines à avorter tant que le fœtus n'est pas viable, soit vers la 24e semaine de grossesse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette offensive des anti-IVG n'a en réalité pour seul objectif que de faire revenir le sujet devant la Cour suprême des États-Unis, le temple du droit américain où les juges conservateurs sont de nouveau majoritaires. Tout le monde arabo-musulman a rendez-vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain à la Mecque pour 3 sommets successifs. 2 jours de conclave durant lesquels le royaume saoudien sunnite espère former le plus large front possible face à son ennemi juré, la République islamique d'Iran chiite. Une stratégie qui n'est évidemment pas nouvelle mais qui se retrouve aujourd'hui exacerbée par les tensions régionales actuelles, en particulier après les récentes attaques contre plusieurs cibles pétrolières dans le Golfe. mais aussi depuis que l'administration de Donald Trump a inscrit le mois dernier les gardiens de la Révolution sur sa liste noire d'organisations terroristes et renforcé par ailleurs les sanctions économiques contre Téhéran. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Toute la question reste de savoir si l'Arabie Saoudite est bien en mesure aujourd'hui de constituer ce fameux front anti-Iran.
Écoutez Thomas, ce n'est pas évident parce que plusieurs pays qui participent à ces trois sommets sont très réticents à cette idée. D'abord, au sein des monarchies du Golfe, comme par exemple le Qatar, qui a renforcé ses liens avec l'Iran depuis que ses voisins lui imposent un embargo pour desserrer les taux. Doha utilise l'espace aérien de la République islamique pour ses avions de Lille et a donné un coup d'accélérateur aux importations des produits iraniens, notamment alimentaires. De son côté, le sultanat d'Oman continue d'entretenir des relations suivies avec Téhéran, tandis que le Koweït redoute les conséquences de cet affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et puis, au-delà des pays du Golfe, certains poids lourds du monde arabe ne voient pas non plus d'un bon œil l'attitude belliqueuse de Riyad. C'est le cas de l'Irak, qui n'a pas l'intention de s'opposer frontalement à son voisin iranien, avec lequel il partage une longue frontière, ou encore l'Égypte du président Sissi qui traîne les pieds vis-à-vis du projet d'OTAN arabe, alliance militaire anti-Iran, soutenu par l'Arabie Saoudite. Enfin, dans le monde musulman, la Turquie a beaucoup d'intérêts croisés avec Téhéran et ne souhaite pas s'engager sur une ligne dure. Bref, le front uni contre l'Iran espéré par l'Arabie Saoudite risque d'apparaître comme une posture plus rhétorique qu'opérationnelle.
Merci Christian Chéneau. Et puis j'ajoute autre fait significatif, que le Qatar, au centre d'une grave crise diplomatique avec Riyad et ses alliés depuis juin 2017, a décidé d'envoyer non pas son émir mais son premier ministre en Arabie Saoudite. Les États-Unis, alliés à la fois de Riyad et de Doha, ont aussitôt salué cette annonce. Voilà 2 ans maintenant que Washington ne cesse de tenter des médiations pour régler cette crise entre les deux voisins du Golfe qui nuit à sa stratégie d'isolement de l'Iran. Les discussions engagées en Norvège entre des représentants du gouvernement et de l'opposition vénézuélien n'ont pas permis hier d'avancer vers une sortie de crise. Du coup, le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, lequel souhaite voir Nicolas Maduro quitter le pouvoir et permettre ainsi la mise en place d'un gouvernement de transition, le temps d'organiser un nouveau scrutin présidentiel, a appelé à une nouvelle manifestation contre le président en exercice. L'abus de plats industriels ultra transformés augmenterait-il le risque cardiovasculaire et de décès, en tous les cas? Ce que suggèrent 2 études européennes menées auprès de plus de 120 000 personnes et publiées aujourd'hui. Études qui apportent donc de nouveaux éléments au dossier déjà lourd de ces aliments industriels accusés d'accroître non seulement les risques d'obésité ou d'hypertension artérielle, mais aussi de cancer. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer Tara, faut-il préciser ce que l'on entend donc par aliments ultra transformés, dont on rappellera par ailleurs qu'ils occupent aujourd'hui près de la moitié des linéaires de nos supermarchés.
Oui, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas que les barres chocolatées et le soda. On divise les aliments en 4 groupes, aliments bruts, viande, poisson, légumes, ingrédients culinaires transformés, c'est-à-dire broyés, concassés, raffinés, par exemple les huiles, beurre et miel qu'on utilise pour l'assaisonnement. 3e groupe, les aliments transformés. En fait, on mélange les 2 premières catégories. Thon en boîte, fruits en conserve, fromage, pain et enfin les ultra transformés que l'industrie fractionne, modifie chimiquement, auxquels elle associe des additifs. 330 sont autorisés en Europe, arômes artificiels, amidon, édulcorants, épaississants et j'en passe. Même la nourriture bio peut être ultra transformée, par exemple des steaks de soja, des biscuits bio, etc. Alors ces aliments déconstruits sont riches en graisses saturées, en sucre, en sel, pauvres en fibres et en vitamines, et ils augmentent, vous l'avez dit, le risque de maladies graves. La cohorte Nutri-Santé, suivie en France, est composée de volontaires interrogés par Internet. 80% sont des femmes, en tenant compte des autres facteurs de risque, donc à consommation égale d'alcool, de tabac, d'activité sportive. On voit un réel impact des ATU, les aliments ultra transformés. L'augmentation de 10 points d'ATU dans le régime des participants accroît de 13% le risque d'une maladie cardiovasculaire et de 11% le risque de faire un AVC. Une autre étude menée en Espagne sur 20 000 diplômés montre que ceux qui consomment 4 portions d'ATU par jour ont un risque accru de 62% de mourir, toutes causes confondues, par rapport à ceux qui ne consomment que 2 portions d'aliments ultra transformés chaque jour. Les décès ont été comptabilisés dans cette étude sur 10 ans. On ne sait pas vraiment ce qui provoque la mort dans ces aliments. Le lien de cause à effet n'est pas établi, mais l'association aliments ultra transformés maladies cardiovasculaires est statistiquement significative, disent les chercheurs.
Merci Tara Schlegel. C'est un meeting de très haut niveau qui s'ouvre aujourd'hui à Stockholm, la capitale suédoise, qui se félicite d'ores et déjà d'accueillir dans son stade olympique 10 athlètes numéro 1 mondiaux dans leur discipline. En revanche, ce ne sera pas le cas s'agissant du 800 mètres. Le double tour de piste féminin sera en effet privé non seulement de son emblématique numéro 1 mondial, la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya, mais aussi de la Burundaise Francine Nyansaba ainsi que la Kenyane Margaret Wambui, soit le podium en réalité des précédents Jeux de Rio. Et pourquoi ? Parce que ces trois femmes sont aujourd'hui concernées par le tout nouveau règlement de la Fédération internationale d'athlétisme qui demande à certaines athlètes dites hyperandrogènes, en clair présentant une différence du développement sexuel, de suivre un traitement hormonal, sorte de dopage inversé, pour faire baisser un taux de testostérone élevé qui, selon la fédération, leur offrirait donc un avantage injuste dans la catégorie féminine. Une affaire qui interroge donc à la fois les notions de dopage, mais aussi de féminité et d'égalité. Alors le cas le plus emblématique est donc celui de la coureuse sud-africaine Caster Semenya, laquelle a fait appel hier devant la justice suisse du jugement controversé du tribunal arbitral du sport en faveur de ce nouveau règlement qui lui impose de prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone. Toute la question est évidemment de savoir si cet athlète a effectivement amélioré ses capacités de manière inéquitable, brisant ainsi la sacro-sainte égalité des chances, mais pas seulement. La philosophe Isabelle Kevel, elle, voit d'abord et surtout dans ce nouveau règlement une discrimination envers les femmes. Elle explique pourquoi au micro de Maxime Tellier.
Ce qui paraît étonnant, si ce n'est aberrant dans cette affaire, c'est que on n'a jamais reproché à Usain Bolt, par exemple, d'être avantagé, voire d'être dopé parce que physiologiquement ou génétiquement, il avait des capacités supérieures à ses contemporains. Donc là, pour le coup, il y a une inégalité flagrante qui est établi entre hommes et femmes, puisque pour les femmes, on essaie de circonscrire les limites de la féminité, c'est-à-dire aussi de maintenir la féminité dans une performance moindre, parce que c'est bien là la question. Si Caster Semenya est sous les feux de la rampe, c'est aussi parce qu'elle domine la compétition dans sa catégorie, et donc elle fait l'objet évidemment de soupçons, si ce n'est de jalousie. On essaye de circonscrire la féminité et la performance féminine, alors qu'il ne viendrait pas à l'idée de circonscrire la masculinité et la performance masculine. Là, ce qui pose problème, c'est qu'on touche à la définition du genre, on touche à une catégorisation homme-femme, qui pour le coup est discriminante pour cet athlète, en réalité pour ces athlètes, parce qu'elles sont plusieurs dans ce cas. Donc cette égalité des chances, elle est à définir, mais nullement en se servant d'une définition alors encore plus arbitraire de ce que c'est que la féminité, pour essayer d'abaisser la performance d'une athlète, quand on sait par ailleurs que sa performance est quand même très loin de la performance effectuée par les hommes sur la même distance.
La philosophe Isabelle Kevel, elle répondait à Maxime Tellier. L'invité politique de la rédaction à présent, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Première question monsieur Morel, dans un sondage publié aujourd'hui, il ressort qu'Emmanuel Macron rechute de 2 points avec 30% seulement des Français interrogés qui considèrent qu'il est un bon président. Il retrouve ainsi son niveau de janvier, c'est-à-dire en pleine crise des Gilets jaunes. Faut-il en déduire qu'au-delà de sa deuxième place, mais juste derrière le Rassemblement national, ces élections européennes auront en réalité marqué l'échec d'Emmanuel Macron ?
Tout dépend comment est-ce qu'on qualifie échec. C'est-à-dire que très clairement, on a un Emmanuel Macron aujourd'hui qui est replié sur une partie de sa base électorale. Mais cette base électorale, dès lors qu'elle est tenue, dès lors qu'elle est maintenue et dès lors qu'elle lui permet un tête-à-tête avec le Rassemblement national, eh bien, représente tout de même un terrain politique très intéressant parce que s'il le maintient, eh bien, justement, il tend à rebipolariser une vie politique entre lui et le Rassemblement national, avec une possibilité du coup, eh bien, de, malgré la forme de rejet dont il peut être l'objet dans une partie de l'opinion, malgré tout, arriver à apparaître comme la principale alternative à l'extrême droite et donc être dans une position électorale évidemment très favorable.
Question de Stéphane Robert.
Marine Le Pen parle d'un nouveau clivage entre souverainistes et mondialistes. Est-ce que vous pensez qu'effectivement un nouveau clivage est en train de s'installer ?
Alors pour l'instant, c'est sans doute beaucoup trop tôt pour le dire, si vous voulez. On est en pleine recomposition politique. Néanmoins, on en voit en effet les premières traces. C'est-à-dire que ces élections ont montré très clairement la réactivation de quelque chose qu'on appelait le vote utile. Jadis, vous aviez deux grandes formations, le Parti Socialiste, l'UMP et les Républicains. Et ces deux grandes formations, qui étaient des formations attrape-tout, qui arrivaient à parler à plusieurs électorats, profitaient d'un effet de vote utile. Parce que vous saviez que c'était l'un de leurs représentants qui probablement accédera à la présidence et détiendrait une majorité. On voit que lors de ces élections, ce même effet vote utile a joué, mais en faveur de La République En Marche ou du Rassemblement National. Il y a toute une partie de l'électorat de droite classique, des Républicains, qui a préféré LREM pour contrer le Rassemblement National, et toute une partie de cet électorat qui a préféré le Rassemblement National pour handicapé Emmanuel Macron. Également parmi l'électorat de gauche, notamment l'électorat La France Insoumise, certains ont choisi de voter Rassemblement National, pas forcément par conviction, mais justement par défaut, contre Emmanuel Macron. Ce vote par défaut, ce vote utile, c'est en effet l'un des signes les plus clairs d'une forme de rebipolarisation.
Pourquoi est-ce qu'on a finalement un estompement ou un affaiblissement du clivage droite-gauche au profit de ce nouveau clivage-là ?
Mais il faut bien comprendre ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. La gauche et la droite, ce sont des stratégies d'alliance stable entre grands courants politiques qui ont leur réalité, qui ont leur valeur, mais qui en eux-mêmes trouvaient leur cohérence dans une forme d'alliance stable. Typiquement, les droites de René Raymond, si vous voulez, entre les orléanistes, entre les bonapartistes et les légitimistes, vous pouviez avoir des alliances, même s'ils n'étaient pas d'accord sur le fond, parce que l'objectif, c'était d'arriver au pouvoir. Dès lors que l'objectif d'arriver au pouvoir ensemble n'est plus réellement tenable, dès lors que vous avez une autonomisation du centre, et c'est ça, Emmanuel Macron, c'est une gauche girondine et une droite orléaniste qui s'unissent pour gouverner ensemble, à ce moment-là, la stratégie d'alliance est perturbée. Les identités politiques qui étaient liées à ces stratégies d'alliance également sont perturbées. Et comme nous sommes dans un système de clivage, comme nous sommes dans un système d'alternance et qu'il faut exister face à une majorité comme étant l'opposition crédible qui peut proposer l'alternative.
C'est le fait majoritaire ça qui impose ça en France ?
Si vous voulez, il y a plusieurs éléments. En effet, la Ve République et surtout le mode de scrutin qui est le nôtre actuellement implique d'avoir une majorité et une opposition. C'est pas vrai en Allemagne, c'est pas vrai en Italie, c'est pas vrai en Espagne. En France, c'est le cas. Dès lors que la majorité est identifiée, La République En Marche, au regard des élections de 2017, il faut identifier une opposition. Dès lors que cette opposition est identifiée, aujourd'hui c'est le Rassemblement National qui est dans les starting blocks, vous avez l'effet utile, vous avez l'effet vote utile, parce que pour l'électeur qui veut s'opposer à la majorité, la seule alternative devient l'opposition, et on a en effet le phénomène que l'on connaît aujourd'hui.
Est-ce qu'à la place du Rassemblement National, ça aurait pu être la France Insoumise ? Autrement dit, est-ce que la France Insoumise a raté le coche ?
Elle l'a raté pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faut voir quand même que ces élections étaient particulières pour la France Insoumise, ne serait-ce que parce que la majeure partie de sa base électorale traditionnelle n'était pas mobilisée lors de ces élections-là. Les classes populaires se mobilisent peu lors des élections intermédiaires. Le vrai succès du Rassemblement National, c'est d'avoir réussi à mobiliser son électorat-là lors des élections intermédiaires. Et c'est très important parce que l'effet vote utile aurait pu jouer pour Jean-Luc Mélenchon, comme il a joué cette fois-ci pour Marine Le Pen. L'important, c'est d'être devant. L'important, c'est d'apparaître comme le premier opposant, comme le seul qui peut mettre La République En Marche en seconde position. Si la France Insoumise avait été quelques mois avant au même niveau que le Rassemblement National dans les sondages, il n'y a aucune raison de penser qu'une partie de l'électorat du Rassemblement National n'aurait pas voté la France Insoumise, comme là, une partie de l'électorat de la France Insoumise a choisi de voter pour le Rassemblement National.
Est-ce que la ligne choisie par la France Insoumise, à savoir d'apparaître comme la force de gauche susceptible de fédérer, d'agréger autour d'elle les autres forces de gauche, a été une erreur selon vous ?
Ça dépend comment est-ce qu'on entend cette erreur, si vous voulez. C'est-à-dire que ça peut permettre de récupérer un électorat qui est un électorat plus urbain et qui, lui, tient encore réellement à cette identité de gauche qui l'empêcherait absolument de voter Rassemblement National, quelles que soient les évolutions de ce parti. Mais fondamentalement, le problème de cet électorat urbain, c'est d'abord qu'il est moins nombreux que l'électorat populaire, qui lui est un électorat qui, en termes de votants, est plus instable parce qu'il vote moins, mais qui malgré tout permet d'avoir une masse critique qui vous permet de prendre le leadership de l'opposition. Surtout, c'est un électorat qui est plus disputé c'est déjà un objet de chasse pour le Parti Socialiste, pour Europe Écologie Les Verts et pour La République En Marche. Du coup, en choisissant cette ligne d'union des gauches qui devait lui permettre de conquérir cet électorat, eh bien la France Insoumise ne l'a pas conquis, elle l'a cédé aux Verts, et en même temps elle a probablement perdu une partie de l'électorat populaire qui a préféré le Rassemblement National, avec en plus cet effet vote utile.
Est-ce qu'on peut tirer un enseignement de ce scrutin européen pour les autres élections à venir, notamment les municipales ?
En quelques mots.
En quelques mots. Pour les municipales, probablement pas. Parce que pour les municipales, vous avez en effet des circonstances locales qui sont très particulières. Mais pour la droite, en effet, pour les maires de droite, ça va être très compliqué parce qu'il n'y a pas d'espace politique. Il va donc falloir choisir plutôt aller chercher les électeurs au centre ou plutôt aller les chercher du côté du Rassemblement National. Très clairement, pour avoir une ligne unique aujourd'hui à droite, ça va être très compliqué.
Merci Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, je le rappelle, chargé d'enseignement à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo. Une France globalement partagée en deux avec le retour du soleil au sud et un ciel couvert accompagné de faibles pluies au nord. Les températures, elles varieront entre 18 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.